sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucie Como, Boris Pinault et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Pierrick Monsigny. Réalisation Thomas Beau. Autour de moi ce soir, Corinne Rondeau, Sandra Dancoral et Stéphane Coréard pour parler ensemble de Chagall, Lesitsky, Malevitch, l'avant-garde russe à Vitebsk, c'est au centre Pompidou. Nous parlerons également d'exposition Diapason du Monde qui se tient à la Fondation Louis Vuitton et enfin de Rodin et la danse au musée Rodin. Aïssa Tundoy est là pour regarder les fils Twitter et Facebook et donner à entendre les messages que vous pourriez nous transmettre durant cette émission concernant ces expositions. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour voir les deux premiers épisodes, si l'on peut dire, de Senses, le film qui sort en salle actuellement, le film de Ryusuke Hamaguchi, dont nous parlerons d'ailleurs dans la dispute vendredi. Si elle se concentre sur trois figures évidemment majeures, l'exposition du Centre Pompidou, qui s'intitule donc Chagall, Lesitsky, Malevitch, l'avant-garde russe à Vitebsk, se fait la part belle quand même évidemment aussi aux travaux issus de cette école créée en 1918 par Chagall. Loin de Moscou, juste après la Révolution d'Octobre, l'histoire de l'art s'écrit sous les yeux des visiteurs en 250 œuvres et documents. Dans cette exposition, dont la commissaire est Angela Lampe, assistée de Sofia Glukova, scénographie Laurence Fontaine.
Chagall, Lesitsky, Malevitch. L'avant-garde à Vitebsk, 1918-1922.
Ouvriers et paysans commencent déjà à fêter leur anniversaire révolutionnaire. Mais quel discours pourrais-je prononcer, moi, peintre, à cette occasion ? Ne paraîtra-t-il pas étrange à un grand nombre d'auditeurs ? Je n'en doute pas. Pourtant, il ne devrait pas en être ainsi. Et voici pourquoi. En même temps que nous fêtons l'anniversaire de la Révolution d'Octobre, nous célébrons aussi la chute des académies de professeurs et la restauration du pouvoir de l'art de gauche en Russie. On va nous rétorquer : pourquoi êtes-vous donc en minorité ? Vous n'êtes compris par personne. Oui, les créateurs de l'art révolutionnaire ont toujours été et sont en minorité, mais plus pour longtemps. Ce n'est pas en vain que la terre tremble. La majorité nous suivra lorsque les deux révolutions, la politique et la spirituelle, déracineront pas à pas l'héritage du passé avec ses préjugés. Avec obstination et autorité, en obéissant à la voix intérieure de notre conscience, nous proposons et imposons nos idées et nos formes. Les idées et les formes du nouvel art révolutionnaire. Nous avons le courage de penser que l'avenir nous appartient.
Marc Chagall, l'art au temps de l'anniversaire d'octobre, 7 novembre 1918.
Voilà pour une entrée en matière avec l'élément sonore de cette exposition au centre Pompidou. Et c'est Corinne Rondeau qui commence à nous en parler.
Ben voilà une expo que à laquelle je ne m'attendais pas, d'abord parce que c'est l'école de Vitebsk.
Vitebsk.
Alors je vais mal le dire.
Oui, voilà. Moi aussi.
Mais Vitebsk. Elle est très peu connue ou pas du tout connue. On connaît davantage le Bauhaus. Et donc là, c'est vraiment. En plus, c'est les mêmes années, 1919, le Bauhaus, et 1917, l'école de Vitebsk.
Vitebsk.
Bon, je ne le dirai pas comme ça.
V-I-T-E-B-C-K.
Alors moi, je me réjouis parce qu'en fait, c'est aussi une manière de voir Chagall tout autrement. Même si la première salle, bon, alors la première chose qui nous arrive, c'est Lénine sur une estrade en train d'haranguer la foule. Et puis tout de suite, il y a du Chagall. On se dit bon, oui, d'accord, c'est du Chagall. Très beau tableau, notamment ce tableau avec Bella et enfin un couple, parce que c'est les années de bonheur aussi avec Bella, la femme de Chagall. Et puis il y a tout de suite Lesitsky.
Lissitzky.
Lissitzky.
Non, mais je pourrais faire les noms,
puisqu'il
si vous voulez.
A été,
faites des blancs,
s'il vous plaît,
je fais les noms.
Voilà. Cet artiste qui a été d'abord architecte idole, et qui a fait... Oui.
Ah, moi, j'adore.
Mais c'est l'artiste que... Enfin, bon, je préfère Lissitzky à Malevich, de toute façon. Et donc, on voit finalement tout ce départ qui est aussi lié à une certaine... origine, je veux dire, ce sont deux artistes juifs notamment. Là, on a une série d'estampes qui sont des illustrations qui relèvent aussi de la culture juive. Et le grand moment en fait de la construction de cette école par Chagall, mais aussi un musée, il n'y a pas que l'école, c'est justement février plutôt qu'octobre de la Révolution, à savoir vraiment des propositions très libérales de la part des révolutionnaires, à savoir l'égalité absolue, hommes et femmes, et aussi des religions. Et il y a, comme il est aussi originaire de Vitebsk. Voilà, il va préférer partir là-bas pour construire ce projet merveilleux. Alors moi j'étais très heureuse de ça parce que d'abord je découvrais un autre Chagall, je découvrais un Chagall qui voulait ouvrir une école dans laquelle il y avait un éclectisme qu'il souhaitait très fortement, où le figuratif mais aussi l'abstraction avait lieu, une manière de s'impliquer dans la révolution. On vient de l'entendre dans la bande-annonce du musée, l'exposition, c'est effectivement, je dirais sans prétention, mais avec beaucoup de pertinence, de dérouler un fil chronologique qui nous permet de voir à la fois l'initiateur, le fondateur, mais aussi ceux qui vont apparaître très très vite et qui ont participé aussi à la formation de Chagall, notamment son professeur qui était Penn. Le prénom étant je ne sais plus quoi, Yuri Penn, qui a été professeur d'art figuratif, qui était lui-même, il avait créé une école d'art juif dans la localité, et dans lequel il n'est pas venu tout de suite d'ailleurs, il a été un petit peu en colère par rapport à Chagall, par rapport à ça, et puis Lissitzky tout de suite, très rapidement, qui va demander aussi à Malevich de venir, et puis on va voir donc ce mouvement d'utopie collective qui va s'exprimer à travers le groupe de ou novice, qui veut dire affirmateur du nouveau en art, et jusqu'à effectivement l'entrée de Malevich, puis ensuite l'après. Et donc je trouve que l'exposition, elle est tout à fait justifiée. D'abord, je trouve qu'à partir après, on a mai 68, on n'arrête pas de nous rebattre les oreilles avec ça, donc c'est très bien de voir une autre révolution. C'est aussi beau de voir que le Pompidou peut s'octroyer une vraie modernité à l'intérieur de son musée avec ce parcours-là, et encore une fois avec, je dirais, l'humilité qu'il faut pour offrir un parcours historique d'une école qui n'a duré que 3 ans et demi à peu près, et dans lequel c'est fait vraiment une révolution en interne. Et moi, en plus, le catalogue est formidable. Il y a une anthologie de textes, et Chagall, j'ignorais absolument cette espèce de force, de harangue même, d'engagement si fort de la part de celui dont on dit toujours, il a peint des gens volant dans les cieux, et avec une intelligence, une drôlerie, puisque bon, il n'est pas arrivé que des affaires très heureuses dans cette école, puisqu'il s'est fait mis un petit peu de côté, mettre de côté par justement les trop grands révolutionnaires. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est quelqu'un qui, malgré tout, de défendre l'idée du commun, n'a jamais perdu de vue la dimension de la création, et que ça passe par un individu. Parce que la question du collectif, l'utopie, ça...
Oui, on va voir que c'est compliqué. On va le voir avec le premier regard de Sandra Adancourt, aller sur cette exposition du Centre Pompidou.
Moi, j'ai trouvé que c'était une exposition essentielle sur un moment d'entre 1918 et 1922, donc oublié ou du moins méconnu sur ces années à Vitebsk, qui est une ville donc de tradition juive, une ville.
Faire corrige parce que vous le dites parfaitement.
Ça, bah oui, c'est ça. Mais je me suis entraînée.
Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce.
Bon,
mais...
on ne vous a pas demandé d'être russophone ce soir.
Merci. Donc Vitebsk, qui est cette ville juive, enfin de tradition juive, qui est une ville d'art depuis longtemps et une cité à l'écart de la capitale. Et je trouvais que c'était intéressant de voir. En tout cas, cette exposition, elle est riche de sens. Enfin, elle soulève l'idée qu'il y a vraiment ce vent révolutionnaire dans les années 20 qui a provoqué pas seulement effectivement ces idées du Bauhaus qu'on connaît ou de De Stijl pour citer une autre avant-garde cette fois-ci néerlandaise, mais que de manière hyper locale, il y a eu d'autres expérimentations comme celle de Vitebsk autour de cette pensée collective de l'art, de cette pensée d'un art qui se cantonne pas en fait à la peinture, mais qui concerne tous les aspects de la vie. C'est ce qu'a voulu faire aussi le Bauhaus, c'est-à-dire ça concerne à la fois le design, l'architecture, un art pensé par et pour la société. Et c'est assez amusant. Moi, j'étais ravie aussi de découvrir que Chagall, qu'on connaît surtout, pour ses, comment dire, cette esthétique assez reconnaissable d'un folklore russe revisité, pour dire vite, il a eu cette impulsion, on va dire, révolutionnaire, et c'est lui, qui a lancé cette idée d'une école gratuite et ouverte à tous, cette école populaire d'art à Vitebsk, et qui, dès l'année 1918, donc pour fêter notamment l'année, enfin la révolution 17, exactement, avec le jeune David Jakerson, un autre peintre novateur, ils vont entièrement recouvrir la ville de panneaux colorés. Voilà, l'art va s'inscrire dans la ville.
Dans la ville, sur les bus, partout.
D'ailleurs, il y a une petite peinture assez drôle, moi, je trouvais, de Chagall, qui, je crois, est une esquisse pour un panneau qui s'appelle En avant, en avant, où on voit un personnage habillé comme un paysan russe qui fait une sorte d'immense bond en avant, les jambes tendues, porté par la fougue révolutionnaire. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'il y a cette idée de personnages qui flottent comme ça, qu'on va retrouver d'ailleurs dans toute la peinture de Chagall. Donc Chagall, c'est assez intéressant parce qu'il va s'entourer à la fois de peintres académiques, comme son maître Youri Penn, qui garde à l'école au début, et puis c'est lui quand même qui va faire arriver des esprits novateurs, et notamment ce fameux Lissitzky, à qui il donne un poste de professeur. Alors ça, c'est la deuxième grande partie de l'exposition, qui est plutôt consacrée à Lissitzky et à toute cette série de peintures qu'il appelle Prune. Alors c'est projet d'affirmation du nouveau en art. En fait, ce sont des sortes une série de peintures composées essentiellement de formes géométriques. Alors soit des surfaces planes, soit des sortes de projections axonométriques, comme diraient les architectes, d'éléments d'architecture. Isométriques ou axonométriques, je ne sais pas exactement.
Représentation isométrique.
Voilà, ce sont des surfaces qui semblent
des volumes.
Des volumes qui semblent flotter dans l'espace. Donc dans cette mouvance du constructivisme qui naît à cette époque, et c'est Lissitzky qui lui-même va ramener Malevitch donc dans cette école, et tout cela évidemment va être à l'origine de cette mise en place de l'avant-garde russe qui va dépasser Chagall, puisque en fait on apprend dans l'exposition que les élèves de Chagall vont très vite préférer le suprématisme,
le charisme
de Malevitch et le charisme de Malevitch.
On passe le relais à Stéphane Coréard, dont on va apprécier la prononciation russe.
De Vitebsk, bien sûr. Il y a deux manières de visiter cette exposition. Effectivement, on peut la voir un peu comme mes collègues l'ont un peu déroulé, comme un moment charnière de l'histoire de l'art, où la lutte entre la figuration et l'abstraction prend une tournure particulièrement dramatique et radicale sur le fond d'enjeux politiques réels. Mais on peut aussi simplement la visiter comme un épisode de Dallas sur Dvina, où le gentil enfant prodigue, Chagall, qui rentre tout auréolé de ses succès parisiens pour épouser la belle Bella, justement, et va être trahi par son ami Lissitzky, qui l'a pourtant lui-même engagé dans l'école, avant que le méchant Malevitch s'empare de la ville, le fanatise tout le groupe des jeunes excités, donc les Zunovis dont on a déjà parlé, puis abandonne Chagall à son triste sort, qui continuera... son chemin. Alors, la première version, c'est effectivement celle de l'exposition et celle du catalogue, quand même plutôt qui est sérieux. Je salue également l'anthologie de texte qui est à la fin, mais j'ai trouvé sinon que le catalogue était un peu bavard et un peu répétitif.
Sur quelques textes.
La seconde, c'est plutôt la version que Chagall raconte évidemment dans Ma vie, son autobiographie de 31, où il commente abondamment la traîtrise de Lissitzky et ce qu'il appelle l'imposture de Malevitch. Il faut dire qu'effectivement, ça avait commencé sur une forme de malentendu, puisque après la révolution de 17, les citoyens juifs comme Chagall deviennent des citoyens de plein droit, donc il revient à Vitebsk, qui veut aussi quand même quelque part avoir sa part de gâteau de de cette nouvelle donne qui est engendrée par la Révolution. Il crée cette école un peu sur le modèle finalement de l'école des Beaux-Arts de Paris, hein, par atelier, où effectivement il y a une très grande diversité de personnalités. Mais tout ça, effectivement, après le premier anniversaire de qui arrive très vite évidemment de la Révolution d'octobre, où il y a toutes ces bannières que dans la ville que vous avez décrites, où effectivement Chagall lui-même quand même dit d'ailleurs, il dit que les ouvriers le comprenaient, enfin en tout cas c'est comme ça qu'il le ressent, mais il dit que les apparatchiks, les chefs, les communistes, là je le cite, semblaient moins satisfaits. Pourquoi la vache est-elle verte et pourquoi le cheval s'envole-t-il dans le ciel? Pourquoi? Quel rapport avec Marx et Lénine? Alors effectivement, c'est ce que montre la première salle où il y a des chefs-d'œuvre de Chagall. Alors, on va pas bouder notre plaisir parce que même si c'est pas un peintre qu'on goûte a priori, je pense, les uns et les autres particulièrement, les tableaux sont magnifiques. Ouais. C'est aussi parmi les rares chefs-d'œuvre de l'exposition, donc il faut quand même le dire, c'est quand même une exposition où il y a beaucoup de petites choses. D'ailleurs, parfois, y compris sur ce tableau de Chagall, il y a le tableau et à côté l'esquisse qui n'amène rien, si ce n'est de dire qu'elle est dans la collection du Centre Pompidou, donc on la met à côté. Je trouve que ça parasite un petit peu, ouais, pour moi, l'accrochage. De la même manière,
Oui, c'est quoi, la femme au vin rouge,
oui, c'est ça,
avec les deux esquisses préparatoires. Oui, oui. Moi j'aime bien
voir
ça.
Double portrait au verre.
Le double vin, merci. Ouais. Bon, le vrai titre. Ouais.
Il y a aussi beaucoup de.
Dans un deuxième temps,
vous avez traduit vous aussi. Hein. Vous êtes là pour ça, Corinne. Merci, je vous en remercie vraiment beaucoup.
Il y a aussi beaucoup de reconstitution. Mais moi, ce qui m'a effectivement énormément plu, c'est Chagall qui se moque des suprématistes, enfin qui essaye de combattre un petit peu les suprématistes, on va dire, sur leur terrain, le terrain de là, avec des moyens assez dérisoires, parce que c'est souvent des toutes petites gouaches, des petits collages suprématistes. Mais dans lesquels, à l'intérieur de ce collage, il fait apparaître une chèvre, un personnage, souvent un autoportrait. Effectivement, comme si finalement l'art sans objet de Malevitch n'était voué qu'à servir de cadre, finalement, de décor à l'art véritable. La conviction de Chagall est simple, d'ailleurs il la résume en une phrase. Je leur disais, aux suprématistes, qu'un carré sur une toile est un objet, ni plus ni moins qu'une chaise ou une commode. Mmh. Donc effectivement, il peint à ce moment-là ces petits collages, ces petites gouaches, où il traite le suprématisme finalement comme un assemblage de chaises et de commodes. Les autres, en revanche, de l'autre côté, les Unovis, hein, emmenés par Malevitch, très charismatique, qui à l'époque d'ailleurs a une plus grande activité théorique presque que picturale. Il faut quand même aussi noter que tous ces gens sont attirés par Vitebsk, non seulement parce que c'est une ville charmante à la prononciation merveilleuse et facile, mais aussi parce qu'il y a à manger. Effectivement, parce que Malevitch, lui, était professeur à Moscou, mais il n'y avait rien à manger, même pour les professeurs. Il habitait très loin du centre, il devait se taper des dizaines de kilomètres à pied tous les jours. Et en fait, finalement, ils repartiront aussi de Vitebsk quand ça deviendra un peu plus difficile. D'ailleurs, c'est une des choses qui m'a amusé, c'est de voir que ces Unovis, effectivement, couvrent absolument toute la ville de leur signe, la Sainte Trinité suprématiste, un cercle carré et croix, en noir, blanc et rouge. Et alors là, effectivement, à partir du moment où Malevitch arrive, c'est une véritable épidémie. D'ailleurs, on s'est un peu cru dans une épidémie de Joël Hubot qui manipule d'ailleurs à peu près les mêmes signes. Et alors là, effectivement, le tramway, les tribunes d'orateurs, l'opéra, sans musique parce qu'ils n'avaient pas les moyens, des décorations murales, mais même d'ailleurs les coupons d'alimentation deviennent suprématistes. Ouais. Tout devient absolument suprématiste. Dans cet effectivement art collectif, il y a quand même une difficulté, c'est que finalement c'est difficile de mobiliser un groupe quand n'importe quel individu peut en remplacer un autre au pied levé. Finalement, par exemple, il y a une composition suprématiste au carré bleu de Lazare Kidekel, qui est un des artistes qu'on connaissait pas, je pense, dans l'exposition, parce qu'il y a une trentaine d'artistes, qu'il a réalisé à l'âge de 17 ans et qui n'est ni plus belle ni moins belle que n'importe quel Malevitch ou n'importe quel Lissitzky quasiment de l'exposition. C'est ce que dit d'ailleurs, ce que disait très bien Philippe Lançon sur Kupka, cette phrase qui est déjà culte, où il dit que finalement toute l'abstraction, malgré les beaux discours sur la science et la modernité qu'elle porte, finit par ressembler à une moquette des années 70. Donc il y a une trentaine d'artistes. Ça, c'est aussi pour moi à la fois une découverte et une frustration de l'exposition, parce que la plupart de ces artistes, il y en a certains qu'on connaissait comme Yvan Pouny, mais beaucoup qu'on connaissait pas, et je trouve qu'ils sont montrés un peu là comme des figurants et comme des seconds couteaux. On a du mal pour la plupart à découvrir finalement leur rapport personnel singulier à ce groupe. Alors peut-être que c'est pas l'idée, peut-être qu'il fallait montrer que c'était un groupe.
C'est peut-être pas simple non plus.
Il y a quand même Nikolaï Swetin, je trouve, qui ressort avec des très beaux tableaux.
Pour le coup, c'est celui qui est le plus proche de Malevitch, je
crois. Oui, mais absolument.
Là, vous contredisez.
Non, parce que.
Vous contredites. Je sais plus comment on dit.
je me contre-vitais, parce que.
Ah ben
oui. Non, parce qu'il y a toute la partie où ça va vers le design, justement, et il est présenté comme un pionnier du design soviétique. Il y a toute la partie graphique, notamment, qui n'était pas dans les problématiques de Malevitch.
Corinne Rondeau ?
Oui, non, mais comme d'habitude, notre ami Coréard a la dent dure. Parce que je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas confondre à la fois ce qui se passe dans l'école. D'ailleurs, on a quand même des cartels qui nous accompagnent sur l'intérieur. Mais là, on a un déroulé, effectivement, entre un départ où l'éclectisme est aussi la dimension de la révolution. C'est-à-dire, si c'est l'égalité, il n'y a pas de principe qui déterminerait une forme ou un style. Or, effectivement, le suprématisme ce suprématisme volumétrique qui va apparaître à Velizisky et qui va être renforcé par la présence de Malevitch va organiser en fait une dimension stylistique. Moi, pour le coup, je vois apparaître une abstraction qui est stylisée, mais qui fait disparaître évidemment le sujet, qui va avec, aussi une pensée du carré, mais aussi la manière dont Malevitch voudra penser un art sans objet. Il y a quelque chose de la collectivité qui vient asseoir finalement la manière dont on va produire quelque chose. Donc à l'intérieur de ça, il y a des petites variations à l'intérieur de ce suprématisme volumétrique que met en œuvre déjà avant l'avenue de Malevitch, puisqu'ils sont en correspondance pendant 6 mois avant l'avenue de Malevitch avec Lisinski, et on a quand même toute la série des prunes. On ne les voit jamais. On ne va quand même pas non plus. Il y a des tableaux de Malevitch, de Lisinski, qui sont absolument admirables. Et dont on voit d'ailleurs une photographie. On peut les accrocher à l'envers et à l'endroit, puisqu'en fait, ce sont des formes dans l'espace que, comme le dit Lisinski, c'est un aiguillage entre la peinture et l'architecture. C'est une manière de repenser la question de l'espace, non pas comme une vision du monde, mais comme la réalité du monde, dit-il. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pour ça que ça va s'orienter vers de plus en plus le constructivisme, mais aussi ce que va donner Van Doesburg avec l'art concret, enfin juste avant, c'est-à-dire le mouvement de Stiel, qui est aussi une manière de sortir du tableau vers l'espace public dans des constructions qui sont évidemment à l'extérieur, même si Lisinski condamnera Van Doesburg en disant de toute façon, c'est la victoire, c'est la couleur, puisqu'il fait des plans colorés, que ça ne plaît pas du tout à Lisinski, puisque c'est les couleurs blancs, enfin c'est le coin rouge contre les blancs, c'est le noir, etc., etc. Moi, ce que je trouve quand même dans cette exposition, c'est justement de voir apparaître à la fois l'intelligence d'un homme pour la révolution, et puis ces révolutionnaires qui vont, en fait, je dirais, s'auto-détruire de l'intérieur, en même temps que les bolcheviks en 22 vont leur dire, on reprend la politique culturelle, et donc on ferme l'école, même s'il y aura un musée, il y aura une femme directrice, il ne faudra pas le négliger, c'est quand même, ça ne sera jamais fait ailleurs. Donc je trouve que là, vous boudez votre plaisir, et quand les artistes, on les connaît peu et qui sont soumis, je dirais, à un ordre formel, bah effectivement, mais Lisinski,
ils sont élèves,
il est parfaitement reconnaissable par devers n'importe lequel. Ouais. Même Malevitch. Alors là, Lisinski, c'est pour moi, c'est un peu la quintessence de ce suprématisme.
Je vous suis là-dessus. Un dernier mot, Sandra Dancourallet.
Oui, moi je trouve que cette exposition, c'est un très beau travail d'historien de l'art, en fait. Et la commissaire, c'est Angela Lampe, et je trouve que ça, elle a fait un super boulot. Il y a des ensembles exceptionnels comme les prunes. Il y a des œuvres qu'on connaît mal de Malevitch, les magnifiques œuvres rouges et noires qu'on voit jamais. Enfin, il y a des documents exceptionnels sur Lunovis. Et moi, alors c'est peut-être mon côté plus Malevitch que Chagall, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a frappé à quel point les œuvres telles les architectones de Malevitch qui fait en 23, donc après Vitebsk, lorsqu'il part à Petrograd et qu'il poursuit ses recherches, à quel point elles tiennent encore aujourd'hui. C'est-à-dire que évidemment, ça a traversé l'histoire de l'art, et enfin, ça a inspiré, disons, pas mal de gens, et notamment en architecture. On pense à toutes ces utopies d'archizoom, par exemple, le mouvement radical italien, avec leur recherche sur les villes, des villes modulables, utilisables selon les circonstances, qui sont évidemment une critique des valeurs consuméristes. Et puis, on pourrait penser de manière très récente aux utopies que poursuit, par exemple, François Roche, qui est cet architecte français. Contemporain, qui imagine des villes ou des bâtiments qui privilégient aussi le furtif, le circonstanciel, qui le privilégie à l'objet fixe. Bon, bref, tout ça pour dire que l'exposition, je trouve qu'elle montre avec force en quoi Malevitch nous concerne encore aujourd'hui. Et j'ai juste un dernier mot. Il y a un petit livre que j'ai acheté à la sortie de l'exposition qui est aux éditions Alia. C'est un joli texte que certains connaissent de Malevitch sur la paresse, que je trouve assez admirable parce que c'est une critique de l'instrumentalisation de la force de travail et des logiques de productivité, mais du côté capitaliste comme du côté communiste. Je sais pas, c'est une jolie philosophie.
Mais il a mal fini, le pauvre.
Bon, conseil supplémentaire. Pour l'instant, on parlait de Chagall, Lisinski, Malevitch, l'avant-garde russe à Vitebsk, 1918-1922. À découvrir jusqu'au 16 juillet au Centre Pompidou. Catalogue, beau catalogue, sous la direction d'Angela Lampe, bien sûr, publié par le Centre Pompidou, à suivre dans la dispute au diapason du monde. C'est la nouvelle grande exposition de la Fondation Louis Vuitton. Et nous parlerons évidemment ensuite de Rodin et la danse au musée Rodin.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Suite de cette dispute consacrée ce soir aux arts plastiques en nous rendant à la Fondation Louis Vuitton, on pourrait découvrir dans l'ensemble des galeries du bâtiment une nouvelle sélection d'artistes de la collection, des œuvres modernes, des œuvres contemporaines, pour l'essentiel jamais exposées dans ce lieu. C'est bien sûr Suzanne Paget qui a organisé cet accrochage avec Angéline Scherf, Ludovic Delalande et Claire Stäbler, scénographie Marco Palmieri, avec en ligne de mire l'idée d'interroger la place de l'homme dans l'univers et sa relation au monde du vivant, ce qui est quand même un vaste champ. Voilà, à la Fondation Louis Vuitton, l'exposition s'appelle « Au diapason du monde ». Le diapason pour nous, c'est Sandra Adancourale.
Eh bien, c'est pas un exercice facile de trouver une cohérence ou une thématique pour réunir des œuvres d'une même collection et en montrer en même temps la richesse, l'étendue donc parce que on part de Paul Queux, Yves Klein, on va jusqu'à voilà des jeunes Andrea Crespo ou un peu moins jeune Kiki Smith. Faut expliquer un peu comment est composée, enfin construite l'exposition. C'est deux parcours d'exposition complémentaires qui se font autour des rapports de l'humain et de la nature. C'est ce que nous dit nous disent les cartels et nous dit le dossier de presse. Donc on a le parcours A, donc qui est au niveau 2 du bâtiment, où on est plongé dans l'univers de l'artiste Takashi Murakami, qui est donc dans cette esthétique kawaii avec à la fois des références aux peintures de fantômes japonais qui rappellent les premiers mangas d'Okuzai, et puis il y mêle également toute une imagerie de kawaii, donc, et puis toute une question de traumatisme liée aussi à son pays, la bombe atomique, et plus récemment évidemment le tsunami. Et il y a notamment présenté à cet étage une immense fresque murale qui met en scène des personnages de la mythologie traditionnelle chinoise, je crois, dans des décors merveilleux. Et au milieu de la pièce, il y a un octopus géant. Voilà, donc ça, bon, il y a une sorte de monographie sur Takashi Murakami.
Je crois que c'est une exposition à part, moi, mais donc j'ai pas compris. Hein.
Voilà. Et ensuite, il y a le parcours B, qui est intitulé « L'homme dans l'univers du vivant ». Et donc là, on a trois étages. Alors, on a un premier étage intitulé « Irradiance ». Alors, si j'ai bien compris, ça fait référence au rayonnement de l'œuvre de Dan Flavin, qui est un tube fluorescent qui est placé dès le début de la salle. Et sont convoquées ici des œuvres, si j'ai bien compris encore, qui explorent, on va dire, la matière et ses métamorphoses. Voilà. Moi, j'ai pas vraiment compris ce qui les unissait réellement. Alors, on a des belles pièces, hein. On a des panneaux très colorés de Gerhard Richter, de Paul Queux. Plein de peintures qui procèdent, on va dire, des procédés alchimiques. Une vidéo de nuages de Tricia Donnelly, une installation qui s'appelle Avalanche de François Morlet. Donc Et puis, au centre de la salle, Pierre Huyghe et son aquarium qui s'appelle Cambrienne Explosion, qu'il a fait en 2014, qui est une sorte, on va dire, d'écosystème marin, habité de crabes et de cet animal étrange qui s'appelle l'imule, je crois, au-dessus desquels flotte une roche, et qui est en référence à l'apparition des espèces lors de l'explosion dite cambrienne. Tout ça pour dire que, voilà, il y a des peintures autour de cette idée d'alchimie, si j'ai un peu compris. Et puis, il y a effectivement des œuvres, plutôt des œuvres très bonnes, hein, d'artistes très bons, autour de cette question, effectivement, de l'homme et de la nature. Ensuite, la section suivante à l'étage inférieur s'appelle l'infiniment. Donc là, on a trois pièces qui se réfèrent à des œuvres emblématiques de l'histoire de l'art, voilà, et qui, nous dit-on, interrogent la possible disparition de l'homme. Donc c'est par exemple Adrien Villaroras qui représente les jambes tronquées du David de Michel-Ange avec à ses pieds trois chatons en matériaux de synthèse. Voilà, une sorte de scénario post-apocalyptique. Et enfin, on a l'homme qui chavire. Et là, ça m'a plu.
Ah, ça y est, on y arrive.
Mais non, c'est-à-dire je cherchais la cohérence, c'est-à-dire que...
Et vous l'avez trouvé?
Ben, en tout cas, cet étage, c'est un étage où j'ai trouvé que la poésie, justement, induite par l'ensemble des œuvres réunies, fonctionnait. Donc ça prend pour appui L'homme qui chavire, donc d'Alberto Giacometti, qui est présenté dans l'exposition, et autour duquel est présenté un ensemble d'œuvres, une déclinaison d'œuvres sur l'homme, cette fois-ci, on va dire, en proie au fantasme, au dédoublement à sa propre étrangeté. Et là, ça devenait intéressant. Là, j'ai l'impression qu'on était voilà, dans le sujet. En tout cas, il y avait des œuvres vraiment qui fonctionnaient ensemble. On a ce magnifique nu au bas vert d'Henri Matisse, où on a ce personnage en papier découpé qui semble découpé de la même manière qu'un végétal. Donc on a cette confusion entre homme et végétal. Là, on sent justement cette hybridation, cette question de l'homme et son rapport au végétal et l'animal. On a la sculpture en bronze de Kiki Smith. On a une anthropométrie de Yves Klein. On a ces autoportraits assez drôles de Maurizio Cattelan qui s'appelle Spermini, qui aborde la question du double et du clonage. Et puis, alors je pas tous les citer, mais on a par exemple cette jeune artiste Andrea Crespo qui explore dans son diptyque là sur les jumeaux, voilà, son identité plurielle. Et enfin, on a ce magnifique film de Pierre Huyghe qui s'appelle Human Mask, qui nous montre on suit un singe vêtu comme une petite fille qui porte un masque no. Et voilà, l'artiste là, il fait émerger chez le singe une sorte de... Enfin, par le simple subterfuge du masque, il fait émerger une sorte d'humanité qui vient déranger, encore une fois, l'écart qui existerait entre humain et animal. Cette dernière partie...
À trouver grâce à vos yeux, voilà. Et enfin, on vous y avait vu une forme de cohérence. Mais en fait, ça relance un débat qu'on a eu quand même un certain nombre de fois dans cette émission sur la question de la thématique des expositions. Alors, il se trouve que la collection de Bernard Arnault recèle quantité de chefs-d'œuvre, qu'on peut les mettre ensemble et que ça fera toujours une belle exposition.
Oui, il y a des très belles œuvres.
Après, est-ce qu'il faut y trouver des lignes de force, des lignes de conduite? Vous les avez vues, vous, Stéphane Correa? Vous avez vu Dynastie après Dallas?
Ah oui, je les ai vus. Il y a effectivement, vous avez raison, il y a deux manières de visiter cette exposition.
Au moins.
Soit comme une démonstration de force.
Qui aligne c'est moi qui ai les plus beaux.
Dans un accrochage au cordeau.
C'est moi qui ai les plus grands.
À la Suzanne Paget, on peut lui reconnaître des qualités d'accrocheuse. Enfin, je veux dire, pas avec un marteau et des clous, mais pour le penser. Mais aussi comme un aveu de faiblesse, parce que je trouve que l'exposition montre ses limites en permanence. Et ses limites sont nombreuses. Effectivement, c'est une collection, on le sait, qui a été réunie récemment. Donc, elle est totalement dépendante des disponibilités sur le marché de l'art récent. D'autre part, Suzanne Paget...
L'excuse.
Non, mais c'est vrai.
C'est une
collection qui a été faite comme Rockefeller sur 60 ans. Je veux dire, c'est une collection qui a été faite les 5 dernières années. Voilà, donc c'est donc des œuvres achetées récemment. Et
même quand on
a acheté des Matisse, et ben, on achète ce qu'on... Et je trouve que la pioche est plutôt bonne quand on connaît bien Matisse. Mais
avec la quatrième fortune mondiale,
exactement.
Peut acheter que ce qui est
à vendre. Une autre limite pour moi, effectivement, c'est que Suzanne Paget, on le sait, c'est une des bénéficiaires du cumul emploi-retraite qui a été décidé par Sarkozy, déploie sa vision qu'on connaît, classique, ultra classe, de l'art moderne et contemporain.
Impeccable.
Mais qui paraît maintenant un peu, je trouve, daté et aussi européano-centré, on y reviendra. À part, évidemment, alors, une autre limite pour moi d'exposition, c'est cet étage Murakami qui couronne le tout et qui est vraiment, c'est ni la cerise sur le gâteau, ni la chantilly sur les fraises. C'est un sommet, ben, on pouvait s'y attendre, de kitsch. Totalement fourre-tout pour le coup, alors là, parce que là, ils veulent montrer aussi tout ce qu'ils ont acheté. Donc, il y a un paravent absolument ignoble, un fond de tiroir, il y a des poufs, il y a, même les mises à distance au sol sont recouvertes de papier kawaii. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas possible, quoi. C'est,
ouais.
Voilà, je pense que vous pouvez échapper à, ce, à cet étage. Un autre problème, quand même, c'est que ça témoigne de la porosité aussi entre la fondation et la marque Vuitton, qui a fait un énorme succès, comme on le sait, de sa collaboration avec Murakami. Et le problème, c'est que les forces, finalement, bah, c'est un peu comme les jeunes disent aujourd'hui, les forceurs, hein, c'est quand même ceux qu'on font un peu trop, c'est un peu relou, quoi. Et par exemple, j'ai jamais vu autant de vidéos d'artistes en 3D. Alors là, c'est vrai que là, on voit la convergence de l'art contemporain hyper luxe. Et faut reconnaître que les vidéos en 2D, moi, je le dis tout de suite aux artistes, hein, c'est fini maintenant. Hein, parce que, franchement, la vidéo en 3D, tout de suite, ça en jette. La vidéo de Cyprien Gaillard en 3D, oui. La vidéo de Cyprien Gaillard en 2D, non. Jetez vos vieilles cassettes VHS à la poubelle, ça marchera plus jamais. Y a aussi beaucoup d'œuvres qui font effectivement trophée ou tour de force, sans vraiment convaincre. Moi, j'étais très déçu, par exemple, par l'imposante sculpture en bronze de Matthew Barney, purement du bronze coulé dans de l'eau avec de l'argile. Voilà, c'est un geste, vraiment, je trouve, après Richard Serra, après tout ça, enfin, qui est juste complètement superfétatoire. Et puis le problème quand même, c'est que globalement les artistes modernes font des merveilles avec parfois très peu. C'est même surjoué ici parce qu'il y a le groupe de sculpture de Giacometti et un dessin où il y a un trait de crayon d'un personnage qui fait 3 cm de haut et qui est forcément sublime. J'ai la sublime, forcément sublime, pour paraphraser Marguerite Duras. Alors que les contemporains, finalement, il faut qu'ils en fassent des tonnes. Hein, je parlais de la 3D, mais tout est à l'avenant, dans les dimensions, etc. pour finalement impressionner un minimum. C'est quand même... annoncée comme une véritable exposition, revendiquée comme telle par un texte de Suzanne Paget dans, il n'y a pas de catalogue, mais dans le journal qui accompagne l'exposition. Et je reviendrai effectivement sur les deux salles manifestes, puisqu'elle a manifestement travaillé deux salles particulièrement, celle d'Irradiance, effectivement, où il y a j'étais dérouté aussi, mais je suis resté peut-être un peu plus longtemps que Sandra Dancouralet. Donc, on voit effectivement, il y a une colonne vertébrale qui structure la salle, en fait, qui la coupe en deux, même, qui part d'une éponge de Klein. Ensuite, il y a le bronze, qui est aussi une arborescence, comme ça, de Matthew Barney au sol. Et ça se termine avec la pierre volcanique de Pierre Huyghe, qui domine effectivement son aquarium. Et puis, il y a ce néon de Flavine en vert qui, du coup, irradie comme ça. Et il y a tout le reste de la salle.
Et ça finalement, prolonge par sur l'installation de Morlaix, en plus.
Voilà, sur le sublime, voire l'immatérialité de la couleur pure. Donc, là, on retrouve effectivement d'autres œuvres de Klein, James Lee Byers, un Richter, là aussi un trophée, un Paul Keuk, moi, j'ai trouvé personnellement décevant, si ce n'est la torsion que la toile a imposée au châssis à cause du travail des matériaux toxiques ou qui ne sont pas faits pour aller ensemble. Et puis effectivement, l'homme qui chavire, alors là, c'est la dissolution de l'homme dans son environnement, je dirais même plutôt. Donc je suis tout à fait d'accord avec votre analyse, Sandra, du papier découpé de Matisse, qui est très beau, avec notamment la main qui est dans la même teinte que la plante verte, enfin, c'est-à-dire sur toutes les deux roses d'ailleurs. Et donc se confondent les bas verts qui se confondent aussi avec des troncs. Enfin, donc ça, je trouve c'est un propos un peu pessimiste. De toute façon, cette exposition a quand même un côté un peu testamentaire, moi j'ai trouvé personnellement. C'est-à-dire que Suzanne Paget, qui a fait toute sa carrière dans le public, en plus dans le public avec vraiment pas beaucoup de sous à la ville de Paris, c'est un moderne, là elle a d'un coup, c'est comme dans le jouet quoi, elle peut avoir tout ce qu'elle veut et puis finalement ça arrive peut-être trop tard, peut-être qu'elle s'est il me semble qu'il y a un peu une occasion manquée dans cette exposition.
Allez, la troisième voie offerte par Corinne Rondeau sur cette exposition au diapason du monde.
Alors m'y voici, puisque vous savez que je boycotte, mais je vous avais dit aussi après le petit salon de Lucille Comeau, il y a quelques mois, où j'avais dit « Bernard Arnault n'a pas besoin de moi, si vous m'invitez, j'irai ». Donc j'y suis allée, c'est la première fois que je découvre ce lieu qui est épouvantable. Mais donc cette exposition...
Vous direz pourquoi il est épouvantable?
Non, mais je déteste l'architecture de Guéry, dedans et de dehors, c'est juste pas possible, quoi. Donc c'est une manière aussi...
Dedans, il y a quand même des grandes salles faites pour être des lieux d'exposition.
Mais en même temps, quand vous avez trois niveaux, et donc vous avez une grande salle, quelques petites sur les bords pour faire des salles de vidéos, que cette architecture jusqu'au dernier étage, vous n'avez pas un panoramique complet, parce que elle est totalement narcissique, elle vous revient à l'intérieur. Enfin, moi, je déteste profondément l'architecture de Guéret. Alors, donc, j'y suis allée, et oui, alors, c'est, apparemment, c'est une exposition, la collection est très ciblée, nous dit-on, dans le dossier de presse. Donc, c'est une sélection très, très ciblée. Alors, évidemment, moi, j'ai marqué au diapason de la fin du monde, parce que la dimension anthropique est très, très, très. Mais je crois qu'en fait, le vrai commissaire de l'exposition, c'est K. Vous savez, le serpent dans le livre de la jungle, puisque vous n'avez pas une vidéo, mais pas une vidéo qui n'est pas hypnotisante. Regarde comme c'est grand, regarde comme c'est beau, regarde comme c'est cher. Donc je pense que Bernard Arnault, effectivement, a fait beaucoup de bonnes affaires. Pour le coup, je crois que son goût se distingue en deux options, ce qui se vend sur le marché de l'art et ce qui fait patrimoine. Donc c'est ce qu'on voit de haut en bas, de l'étage, et effectivement sur des formats, mais gigantesques. C'est-à-dire que même gigantesque, et c'est la raison pour laquelle, même quand vous avez, vous vous dites, du Giacometti, c'est du petit, enfin, un truc fait avec presque rien, juste un œil, des doigts.
Il y en a six.
Et là, il y en a six, mais en plus, il va nous mettre une femme debout, et en fait, elle fait à peu près 2 mètres. D'ailleurs, la notule est fausse, ils disent qu'elle fait 118, elle fait pas 1m18, la statue, elle est beaucoup plus grande que ça. Et effectivement, vous avez juste ce trait de crayon, vous dites, l'anthropométrie est vachement mieux, elle est vachement grand, et puis le mur est tellement grand. Donc, grosso modo, j'ai retrouvé des artistes que je n'aime pas. Non, mais je veux dire, Dominique Foster, j'aime pas. Mais en même temps, c'est toujours effectivement la dimension en mettre plein les yeux, quoi, plein les mirettes. Et donc, ces trois étages ont une... Enfin, d'abord, il ne faut pas s'énerver, je crois. La fondation est juste là pour dire, regardez, qu'est-ce qu'il y a de plus beau, de plus fort, de plus grand, de plus spacieux. C'est ici que ça se passe. On a envie de dire, on espère qu'il y aura d'autres lieux, parce que après, il va y avoir Pinault. Et puis, donc, c'est ce qui va nous arriver en termes de public.
Mettront la
privé.
Même croupe de Catalane. Enfin, pas de Catalane, mais du cheval.
Hein?
Ils l'ont en double. Ils ont une.
Écoutez, ils se tireront la bourre comme ça, voilà. Non, mais je me suis beaucoup amusée. Je suis allée avec un ami, on a beaucoup ri. Mais vraiment beaucoup ri parce que. Voilà, entre le livre de la jungle et est-ce que c'est toi qui as la plus grosse ou moi, ben. Voilà.
Minuscule intervention de Sandra de Corallé.
Je voulais juste dire que malgré tout, j'aimais bien le titre, qui a des connotations musicales.
Au diapason du monde.
Mais si,
je fais pas partie de ce monde-là.
Hein. Et justement, qui rappelle que tout simplement que l'histoire. Enfin, que l'art est une, vous me faites, est une question de vibration. Et effectivement, c'est ce qu'on voit dans l'exposition. Moi, je trouve que ça, c'était adéquat à ce qu'on. Ce qu'on voit.
Stéphane Corrière.
C'est la conclusion, moi, que j'ai retenue de ma visite de l'exposition, c'est que l'avenir de l'homme, c'est le poulpe. Le poulpe est omniprésent dans cette exposition, c'est le vrai fil rouge.
Il y a d'ailleurs.
Au diapason du poulpe.
Exactement, il y a la vidéo de Paré, on a l'impression qu'il s'auto-parodie d'ailleurs, parce que c'est un céphalopode luminescent qui est filmé en HD sous toutes les coutures, pendant qu'il y a un commentaire lu par une actrice ventriloque. Je me suis dit que c'était Paul le poulpe qui prédisait. Mais je voulais juste dire que je trouve que c'est un très bon choix, le poulpe. Moi, je veux bien devenir poulpe. D'abord, parce que c'est un animal très intelligent. Deuxièmement, son accouplement dure plusieurs heures. Et enfin,
arrêtez de parler de vous,
et je pense que c'est pour ça que j'aimerais bien devenir un poulpe. Mais par ailleurs, c'est un des seuls animaux à disposer des coquillages autour de son habitat, et des chercheurs pensent que ça s'apparente à une certaine forme de décoration. Donc, la boucle est bouclée.
Au diapason du monde jusqu'au 27 août à la Fondation Louis Vuitton.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Le troisième sujet de cette dispute art plastique, c'est une exposition dont le sujet semble évident, Rodin et la danse. Enfin là, ça va valser parce qu'il reste 10 minutes. Exposition du musée Rodin qui s'appuie sur la série des mouvements de danse, bien sûr, et une cinquantaine de dessins. On sait que Rodin a rencontré beaucoup de danseuses de son époque, Isadora Duncan, Loïc Fuller, Anna Co, Christiane Lancestremère est la commissaire de cette exposition.
Thank you.
Rodin et la danse. Stéphane Coréard et Rodin.
Alors, il y a deux manières de visiter cette exposition. Soit comme un jingle d'un ogre érotomane qui s'approprie l'âme des femmes à
arrêtez
travers leur corps.
Arrêtez de parler de vous, dirait Corinne Rondeau.
Quoi
pas, arrêtez de parler de vous.
C'est pas moi, c'est Rodin. Rodin disait le corps humain, c'est surtout le miroir de l'âme. Ou alors, comme celle d'un artiste démiurge qui a tordu les standards de son art pour en faire jaillir une vérité nouvelle.
C'est
en
bien
réalité,
écrit, ça, hein.
Les deux sont liés, et je vais vous dire. J'ai retrouvé ça, je ne peux pas ne pas vous le lire. Ce que raconte Isadora Duncan dans ses mémoires, elle se promène avec Rodin dans son atelier, il a 60 ans, elle en a 23. Donc parmi ses sculptures, à ce moment-là, Rodin prend un petit bout de glaise et commence à façonner un sein, et puis hop, il lui saute dessus, sur Isadora Duncan, pas sur le sein. Et elle raconte, il a commencé à pétrir mon corps comme de la glaise, tandis qu'il se dégageait de lui une chaleur qui me brûlait et me fondait. Mais elle ajoute, je n'avais qu'un désir, lui abandonner tout mon être, et je l'aurais fait si par la faute de mon éducation absurde, je n'avais pas pris peur et ne m'étais reculé. Quel dommage! Combien de fois j'ai regretté cette incompréhension enfantine qui m'a fait perdre la divine chance de livrer ma virginité au grand dieu Pan lui-même. Alors.
Et alors?
Ça le réjouit.
Non, ça ne me réjouit pas. Au contraire, c'était peut-être. Juste, je me disais, en période de Me Too, c'est bien de livrer ce témoignage d'Isadora Duncan. Parce que Rodin, c'est un peu le Picasso.
Il a marché dans l'argile,
c'est un peu, ouais. C'est un peu le Picasso de la sculpture, quand même. Mais donc là, il a un blanc-seing, d'Isadora Duncan, si je puis dire un blanc-seing. L'exposition est en trois temps. Trois salles, trois temps un peu alambiqués, on a du mal parfois à comprendre exactement la délimitation. La première, globalement, c'est le corps nu, les postures des danseurs. La deuxième serait plutôt le mouvement, les voiles, avec ce film notamment de Leigh Fuller qui danse pour Rodin. Et puis le troisième, je crois, s'appelle les corps architecture, et c'est plutôt sur l'impression des sentiments dans les corps. Comme vous l'avez dit, Arnaud, l'exposition tourne autour de cette série que maintenant on connaît sous le titre de mouvement de danse, qu'on a connu longtemps sous le nom d'études de mouvement, qui ont été sculptées vers 1911 par Rodin, qui n'ont jamais été montrées de son vivant, sauf aux visiteurs de son atelier. Il n'y en a que deux agrandissements qui ont été faits, un en marbre et un en plâtre au pantographe, qui témoigne tout de même de sa volonté de rendre ce travail public. Cette série est absolument fascinante et magnifique. Dans le catalogue et d'ailleurs dans l'exposition, il y a un diagramme passionnant qui explore ce qu'ils appellent l'approche matérielle et technique de ces sculptures, où on voit en fait que Rodin a fait, je crois en tout, une quinzaine de variations à partir de matrices extrêmement réduites. En fait, il y a deux postures, hein, il y a le modèle alpha et le modèle bêta. Il y a ce qu'il appelle des abatis, qui sont les morceaux qui servent à faire les sculptures, donc il y en a trois pour le modèle alpha, cinq pour le modèle bêta, et avec ça finalement, il les a d'abord scellés ensemble et ça fait une espèce de chimère créature hybride très surprenante, et puis ensuite il a créé 14 nouveaux mouvements, parcellement à frais de moulage à partir de ces abatis, et c'est d'une modernité confondante, parce que là il n'y a plus aucune notion de vraisemblance, il peut prendre deux bras droits, en plus il a rajouté sur tout ça une tête qu'il avait déjà moulée et qui n'avait rien à voir avec tout ça. Il y a une identification manifeste, ça se sent dès qu'on rentre, je pense, dans l'exposition, entre la danseuse, ou plus rarement le danseur, qui peut modeler son corps en une infinité de poses acrobatiques, et le sculpteur, qui, lui, manipule ses abatis, finalement, selon les nécessités de son art. Il y a quand même une ambiguïté, je trouve, par rapport au mouvement et l'appellation de mouvement, parce que c'est vrai que Rodin définissait le mouvement comme un passage entre deux attitudes, mais je trouve qu'il est, et ça se voit d'ailleurs dans l'exposition, il était plus fasciné encore peut-être par des mouvements extrêmement lents, voire quasiment immobiles, notamment les danseuses cambodgiennes qui l'ont beaucoup inspiré. Aussi, oui. Et c'est d'ailleurs un de mes petits regrets, parce que l'exposition est magnifique et le catalogue passionnant, c'est que ça manque de dessin, ça manque d'aquarelle. Je trouve celles qui sont là sont pour la plupart magnifiques, même si parfois en mauvais état. Mais les danseuses cambodgiennes ont donné lieu à une centaine de dessins. Ça aurait vraiment été intéressant d'en voir un peu plus.
Corinne Rondeau, Rodin et la danse.
Oui, mais c'est quand même l'exposition de la limite, parce que Rodin et la danse, on attend ça. Rodin et la danse et le mouvement, enfin, c'est quand même aussi le grand sculpteur du mouvement, hein, je veux dire. Et donc, moi, j'étais un petit peu déçue sur l'exposition, sur sa forme, je dirais, cette manière dont elle met beaucoup de temps à nous accueillir, d'abord parce qu'on a un couloir avec les photographies de toutes les danseuses, mais quand même, au bout, on a ce magnifique film de danseuses cambodgiennes qui sont à tomber par terre, évidemment, mais c'est un film, c'est pas Rodin. Mais on veut nous mettre face, effectivement, à cette manière dont on peut être nous-mêmes fascinés par des mouvements. Et puis, il y a quelques petites choses dans le couloir, notamment son regard sur la bourrée, Hein, et puis il y a une description qu'il donne effectivement de la bourrée avec son œil toujours extrêmement vif, ses redoublements, ses appels du pied, ses balancements et cette attaque, ses superbes plis parallèles, dit-il. On a des descriptions, on a cette manière de nous. Et puis il y a une petite vitrine qui donne à la fois accès sur le couloir et sur la première salle, sur laquelle on a deux petites. Il y a un plâtre qui est en fait à partir d'une étude d'un antique qu'il a. Qui est à Berlin, et c'est un faune, je crois, qui a un léger déséquilibre. Et puis après, vous avez le pas de deux ailé, hein, une des versions en tout cas. Et donc, ça, c'est le déséquilibre. Et c'est vrai que à cet endroit-là, ces petites choses qui sont plus ou moins discrètes sont aussi tout ce qu'il y a dans le travail de Rodin, qui, voilà, le porte-à-faux, le déséquilibre qu'on va retrouver. Et puis, effectivement, ces 13 mouvements, parce qu'on les voit pas souvent ou on les voit jamais. Et donc, là, évidemment, c'est. Comme l'a dit, je vais reprendre la forme, la manière dont il travaille. Mais il y a quelque chose déjà de la pensée dans les cathédrales de France, en fait. Cette manière de voir comment elles sont toutes, comme, je dirais, la cathédrale, un membre est comme une cathédrale. Donc, en fait, comment l'élémentaire, il va essayer de trouver l'essence de l'unité de ces élémentaires-là pour essayer de trouver, et évidemment, je vous dirais, l'infini est là. Je veux dire, travailler sur la redistribution, la reconfiguration des éléments pour faire un tout, c'est-à-dire un corps en mouvement, même si c'est à l'arrêt en sculpture, bon, ben, c'est formidable. Et alors, évidemment, quand on voit ça, on se dit, mais mon Dieu, quels sont ces corps? Je veux dire, il n'y a pas de squelette, il y a juste le squelette des bouts des doigts de Rodin au bout de ses mouvements. C'est effectivement merveilleux parce que là encore, c'est un peu comme de tout à l'heure avec Vitebsk, c'est-à-dire avoir Bravo. Les choses dans tous les sens. Je veux dire, on ne sait pas dans quel sens ça peut se voir, puisqu'en fait, il reproduit, mais il peut les mettre à l'envers, donc forcément, ça crée tout ça. Alors moi, j'étais un petit peu fanatique de ses formes et son travail. Ouais. Au-delà de ça, si vous voulez, bon, encore le film de Les Fuleurs, évidemment, on peut pas s'en empêcher, mais je dirais que entre les 13 mouvements qu'on voit, et surtout à la fin, pour moi, les bras de danseuses, peut-être javanaises, la main qui aura servi à Pierre Vicente et Pierre et Jacques Vicente et les photographies des mains de Louis Fuller, il y a des petits endroits comme ça qui sont assez merveilleux, mais qui, pour le coup, ne sont que des plaisirs pour moi, qui sont toujours du mouvement chez Rodin, mais pas forcément sur la danse. À moins que ce soit que de la danse, la sculpture.
Allez, pour finir, Sandra, Adam Courallet sur cette exposition au Musée Rodin.
Oui, moi j'ai trouvé que c'était une exposition très didactique, très intéressante. Cette mise en contexte, justement, au début, aide à nous faire sentir aussi ce corps dansé contemporain. C'est quand même l'époque, donc vous l'avez dit, de Loy Fuller, Isadora Duncan, mais aussi Ruth Saint-Denis, l'américaine, qui imite des postures yoga. Voilà, j'ai bien aimé cette mise en contexte. Et ensuite, on rentre dans ces salles assez poreuses, justement, avec cette vitrine centrale dédiée au mouvement de la danse. J'ai trouvé ça assez enthousiasmant. Et surtout, ce qui m'a plu, c'était que j'avais l'impression que derrière cette exposition, ce que ça disait, c'était que Rodin était peut-être lui-même un chorégraphe. C'est-à-dire que quand on voit ces photographies, par exemple, des bourgeois de Calais, où on voit qu'il tentait différentes mises en scène, donc c'est un monument composé de six figures de vieillards, il aimait à penser qu'il y avait différents possibles. Et du coup, il les mettait en scène et il en prenait des photographies. Voilà. Et donc, ces possibles sont connus à travers ces photographies. Voilà, moi, j'aime cette idée du Rodin chorégraphe qui est évidemment connu aussi à travers son art de l'assemblage qui ressort énormément quand même de l'exposition puisque Rodin il aime à tenter différentes combinaisons de corps et il utilise d'ailleurs souvent les mêmes figures, on sait combien les différentes figures de la Porte de l'Enfer par exemple, ont été utilisés à maintes reprises. Il y a cette étude pour Iris.
Mais ils commencent en même temps, hein, le travail sur la danse oui, et la Porte de l'Enfer, mais c'est en même temps.
Oui, et du coup, cette Iris, par exemple, elle a été utilisée à différentes reprises, et notamment dans un second temps pour le monument à Victor Hugo.
Corinne Rondeau, vous voulez dire un dernier mot?
Non, Iris, ouais. Il faut la regarder parce qu'il y a des tas de gens qui ne veulent pas la voir, c'est pour ça. Mais le catalogue est très très bien, il faut l'acheter absolument.
J'ai pas encore vu l'exposition, je me suis régalé avec ce catalogue.
Non, le catalogue est
publié chez Azan, extrêmement riche, extrêmement pédagogique, là aussi pour le coup. Il y a quand même énormément d'images, mais qui ne sont pas juste pour faire image, mais qui donnent du sens au travail, à la recherche. Enfin, je trouvais ça assez remarquable.
Stéphane Correa. Je confirme et je voudrais juste insister sur le fait que ce qui est, moi, j'ai trouvé passionnant et ce qu'on sent bien dans le catalogue, c'est la relation que très tôt, Rodin a eu avec ces grandes figures de la danse moderne, qui sont des grands solistes, effectivement. Et aussi, on n'a pas cité Nijinsky. Et il collectionnait les photos, il commandait des photos de ces danseurs pour pouvoir travailler à partir de leur pose.
L'exposition Rodin et la danse, elle est à découvrir jusqu'au 22 juillet au musée Rodin à Paris, donc catalogue chez Azan. Avant de conclure l'émission, c'est l'heure du jeu de la dispute. Camille André nous a rejoint pour d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier au soir et nous donner sa réponse, Camille.
Eh bien, quelle est la seule réalisatrice à avoir reçu l'Hitchcock d'or récompensant le meilleur film britannique?
Festival de Dinard.
Exactement.
Et la réponse est
Clio Barnard pour Le Géant Égoïste.
Ce soir, nous faisons gagner des invitations pour voir les deux premiers volets du film à épisode, on va dire comme ça, Senses, le film de Ryosuke Hamaguchi qui est sorti donc aujourd'hui. Quelle est la question?
Eh bien, pourquoi la série Senses, racontant l'histoire de quatre femmes, est-elle découpée en cinq épisodes?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre page internet, franceculture.fr, page de la dispute, site sur lequel vous pouvez également réécouter nos émissions et vous abonner au podcast. Demain, 19h, une dispute consacrée à la bande dessinée. Nous serons en compagnie de Catherine Robin, Antoine Guillot et Joseph Ghost. À notre sommaire, Elle froide de Jean-Marc Rochette, publié chez Casterman. Kill My Mother de Jules Pfeiffer, chez Actes Sud BD. Nous parlerons également de l'exposition consacrée à Chris Ware qui a lieu en ce moment à la galerie Martel.